l'accent des autres avec les médias francophones publics.
Bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité vue par nos médias partenaires, Radio-Canada, la Radio-Télévision belge, Radio France Internationale, ici le média de proximité du service public français et la Radio-Télévision suisse. Nous reviendrons d'abord cette semaine sur la situation humanitaire à Goma, Nicolas Sûr, car dans l'est de la République démocratique du Congo, cette situation reste critique dans les hôpitaux, une semaine après la prise de la ville par le groupe armé M23 et ses alliés rwandais.
Oui, les combats ont été d'une rare violence. Il y a eu au moins 3000 morts. Les hôpitaux sont saturés et manquent de tout.
Le Canada, lui, respire. Les États-Unis ont provisoirement suspendu l'introduction de nouveaux tarifs douaniers, Nadim Omarak.
Ces tarifs douaniers que menaçait d'imposer le président Donald Trump sont reportés d'un mois.
En Belgique, le nouveau gouvernement fédéral a prêté serment. Début de semaine, 15 ministres issus de 5 partis politiques différents, avec à leur tête Bart De Wever, Premier ministre, Jacques Kremers.
236 jours de négociations ont été nécessaires pour boucler un accord de gouvernement. Leader d'un parti flamand, nationaliste et séparatiste, Bart De Wever prend la tête d'un exécutif qui veut assainir les finances de la Belgique.
De son côté, le gouvernement suisse cherche un nouveau ministre. Il n'y en a que 7 dans votre pays, Xavier Alonso, et les places sont chères. Pourtant, à la surprise générale, les désistements se sont multipliés.
Les parlementaires fédéraux y pensent tous en se rasant le matin, c'est ce qu'on imaginait. De toute évidence, la fonction suprême de la politique suisse, conseiller fédéral, n'attire plus les hommes pour raisons familiales.
En France, les missions de service civique qu'accomplissent des jeunes auprès d'associations avaient été suspendues dans l'attente de l'adoption du budget intervenu ce jeudi. Cela reste un mauvais message pour les jeunes, selon ce responsable d'une association.
Si ça s'arrête d'un coup, sans autre option, sans autre projet, pour les jeunes, c'est véritablement regrettable.
Voici pour nos titres cette semaine. Dans l'est de la République démocratique du Congo, le M23 a donc pris le contrôle de Goma avec ses alliés rwandais. Il a désormais annoncé la mise en place de sa propre administration. À Goma, la situation reste critique sur le plan humanitaire. Selon l'ONU, les combats pour la prise de la capitale du Nord Kivu ont fait près de 3000 morts. Et Nicolas, il y a aussi énormément de blessés. Les hôpitaux manquent de tout.
Mardi, presque une semaine après l'arrêt des combats, des blessés continuaient à arriver dans les structures de santé. Nombreux, comme en témoigne ce médecin de l'hôpital Kichero.
Depuis 2-3 jours, on a fait centaines d'interventions. Les malades les plus fréquents, ce sont les malades avec les projectiles, les sapés des balles ou les éclats. Donc les malades qui viennent avec des plaies graves au niveau des membres, avec des fractures ouvertes.
Et parmi ces victimes des combats, Nicolas, les civils ont été en première ligne.
Oui, ils sont les 2/3 des blessés pris en charge par le CICR. Pour ne rien arranger, la ville reste coupée du monde et ne peut plus être approvisionnée en matériel de santé. Pour Bourena Sidi Mohamed, le directeur adjoint d'Otcha en République démocratique du Congo, basé à Goma, un corridor humanitaire doit être ouvert en urgence.
Nos priorités sont la réouverture de l'aéroport de Goma pour permettre l'arrivée des fournitures médicales et l'évacuation des blessés et éventuellement aussi l'acheminement de l'aide humanitaire. Nous appelons aussi à la facilitation de l'accès aux axes routiers entre Goma et le reste de la RDC. Sans ces accès, les opérations humanitaires resteront fortement limitées, mettant des milliers de vies en danger.
Autre source d'inquiétude, des munitions non explosées, grenades ou roquettes gisaient toujours cette semaine dans certains quartiers de Goma.
L'annonce a provoqué un vrai soupir de soulagement au Canada mardi, car Nadi, les tarifs douaniers américains ne sont finalement pas entrés en vigueur comme annoncé par Washington.
Tout à fait. Ottawa a obtenu un sursis d'un mois de la part du président américain Donald Trump. Un revirement de dernière minute obtenu lundi après 2 appels entre le chef de la Maison-Blanche et le premier ministre Justin Trudeau et en échange d'engagement du Canada pour sécuriser la frontière. Surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec le déploiement de 10 000 agents, l'ajout des cartels mexicains à la liste des entités terroristes. Ottawa doit aussi nommé un responsable de la lutte contre le trafic de fentanyl. Donald Trump continue toutefois de souffler le chaud et le froid en accusant le Canada d'être un très mauvais partenaire commercial et a réitéré son souhait de voir le Canada devenir le 51e État américain.
Et Nadi, ce sursis de 30 jours est plutôt bien accueilli par les provinces.
Oui, plusieurs premiers ministres ont salué cette décision tout en restant prudents. Pour le premier ministre du Québec, par exemple, c'est une bonne nouvelle, même si, selon François Legault, il est trop tôt pour crier victoire. On l'écoute.
Je ne suis pas certain qu'on est sorti du bois, là, donc on n'ouvre pas le champagne tout de suite. l'incertitude reste. C'est un peu ça qui est achalant, M. Trump, c'est qu'il y a toujours cette épée qui est au-dessus de nos têtes.
D'ailleurs, dans une déclaration ministérielle à l'Assemblée nationale mardi, François Legault a affirmé vouloir rebâtir l'économie québécoise dans le but de ne plus dépendre des États-Unis.
Et de leur côté, comment réagissent les milieux économiques?
Eh bien, le climat d'incertitude qui plane toujours dérange les gens d'affaires, puisque ce climat a un impact sur l'économie, dans la mesure où il ralentit les investissements. Voici la PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec, Véronique Proulx.
On a un sourcil, fait qu'il y a un petit soupir de soulagement, mais pour combien de temps? Est-ce que ça sera 30 jours? Est-ce que dans 15 jours, il va changer d'idée? Est-ce que dans 30 jours, il va revenir avec un tarif de 25 %? Donc, c'est impossible pour les entreprises, présentement, d'être capables de prévoir et de planifier leurs investissements.
Et preuve de cette incertitude économique, certaines entreprises, dont les revenus proviennent majoritairement des États-Unis, ont déjà mis à pied une partie de leurs employés. Donc, même si le Canada peut souffler un peu pour le moment, l'épée de Damoclès qui pend au-dessus du pays demeure, surtout si dans Trump n'est pas satisfait des progrès réalisés à la frontière ou encore s'il se trouve un autre cheval de bataille. Ottawa s'active d'ailleurs pour tenter de convaincre l'administration américaine de renoncer une fois pour toutes à imposer les tarifs douaniers actuellement en suspens.
Nadi Mobarak pour Radio-Canada.
L'accent des autres avec les médias francophones publics.
En Belgique, c'était la folle semaine de Bart De Wever, le nouveau Premier ministre d'un gouvernement fédéral associant 5 formations politiques. Il a prêté serment lundi avant d'entamer un véritable marathon. Jacques, vous nous faites le récit illustré de cette première semaine à la tête du gouvernement belge.
Ce n'était pas son rêve, dit-il, mais le voilà Premier ministre. Sa prestation de serment à peine terminée, lundi matin, Bart De Wever participait déjà 2 heures plus tard à son premier sommet européen, un nouveau venu qui doit encore se faire connaître.
Il y a quelques-uns que je connais déjà, mais des autres que je n'ai jamais rencontrés. Quand j'ai arrivé ici, la première question qu'on m'a posée, c'est « Qui êtes-vous ?»
Mardi, après un premier conseil des ministres, nouveau passage au palais pour entendre le discours du roi au corps constitué, puis rendez-vous au Parlement pour y lire la déclaration de politique générale, dont 23 milliards d'économies, résumée par une expression imagée.
Le voyage qui nous attend n'a rien d'une promenade de santé, mais est plutôt de l'ordre d'un col hors catégorie. Mais celles et ceux qui feront l'effort de gravir la montagne pourront apprécier la vue depuis le sommet.
Les débats avec l'opposition ont finalement duré plus de 40 heures, 2 jours et presque 2 nuits jusqu'à l'épuisement. Une opposition très critique à laquelle le Premier ministre a répliqué sans dévier de son cap.
Les mesures que nous devons prendre aujourd'hui ne sont pas toujours agréables, mais je suis convaincu que nous sommes la génération politique qui peut encore prendre cette décision avant que notre modèle social ne devienne définitivement insoutenable et s'effondre.
Le nouveau gouvernement s'est immédiatement mis au travail pour une durée prévue de 5 ans.
Merci Jacques. Si la Belgique s'est enfin dotée de son nouveau gouvernement, la Suisse, elle, dispose d'un poste de conseiller fédéral à repourvoir. Avec le départ de la ministre suisse de la Défense, son parti, le centre, doit lui trouver un ou une successeur. Les favoris les plus en vue étaient des hommes, mais Xavier, leurs désistements se sont enchaînés car ces politiciens n'entendent pas sacrifier leur vie de famille.
Être un bon père ou conseiller fédéral, c'est la question. En Suisse, il n'y en a que 7 des conseillers fédéraux. Et dans notre système de concordance, le parti du centre n'a droit qu'à 1 siège. D'ordinaire, c'est la foire d'empoigne entre les papables pour attraper le train d'une élection au gouvernement. C'est le fait marquant de cette succession. Plusieurs favoris ont renoncé en invoquant leurs enfants, leur vie de famille. Notamment Martin Candinas, un grison de 44 ans. Ce polyglotte maîtrise les 4 langues nationales, très apprécié. Il avait un boulevard devant lui. Sur nos ondes, il explique son choix.
La tâche est très intéressante, c'est clair. Mais on doit renoncer à tout ce qu'on fait maintenant et se consacrer complètement pour cette tâche.
Vous avez aussi une famille, hein, Martin Candinas, ça aussi, ça a peut-être pesé dans votre réflexion?
Naturellement, que la famille, surtout les enfants, ont aussi posé une grande question, parce que mes enfants sont entre 10 et 15 ans. Je travaille déjà aujourd'hui beaucoup, mais tous mes travaux, ils donnent aussi la liberté de se concentrer à la famille. Et c'était, par exemple, hier, quand on a fait du ski.
C'est important le ski en famille, à moins que ce soit le département de la Défense qui n'attire pas. Les analystes, amusés, se perdent en conjectures sur ce besoin des conservateurs d'équilibrer vie professionnelle et vie privée. Le parti a fini par trouver deux candidats, deux hommes, des outsiders. Ils sont sexagénaires et leurs enfants sont adultes. L'élection aura lieu le 12 mars.
Xavier Anozzo de la RTS. C'est un effet collatéral des atermoiements budgétaires en France, finalement adoptés ce jeudi par le Parlement. Tous les contrats des jeunes en service civique qui devaient démarrer en février ont été suspendus, ce qui a mis provisoirement des milliers de jeunes sur le carreau dans tout le pays. Et de nombreuses associations ont été privées de ces renforts indispensables, notamment dans la Somme, où les responsables dénoncent le manque de considération pour les jeunes qui comptent sur ces missions. Le reportage de Jeanne Dossé, d'ici Picardie.
C'est jeudi soir que le directeur de l'île aux fruits, Alexandre Cabral, a appris la nouvelle.
On est en train de recruter trois services civiques qui devaient débuter au 1er mars. On nous prévient brutalement comme ça par mail. Il n'y a aucune empathie. Je pense qu'on mérite un petit peu plus de respect.
À l'île aux fruits, ces services civiques organisent notamment des ateliers pour les enfants. Ils ne remplacent pas les salariés, insiste le directeur. Mais sans eux, cette ferme maraîchère craint de renoncer à certaines activités.
Au-delà de nous, c'est surtout pour ces personnes-là qui comptaient sur ces services civiques. Et si ça s'arrête d'un coup, sans autre option, sans autre projet, pour les jeunes, c'est véritablement regrettable.
C'est souvent une première expérience professionnelle pour ces jeunes d'effrayer 620 euros par mois. L'association amiénoise Flash Art Colors, qui défend les droits des personnes LGBT, vient tout juste de recevoir son agrément pour accueillir deux services civiques. Tout est figé, regrette Louis Sachi.
On a des jeunes au sein de l'association, sortis du marché de l'emploi ou bien qui sont en décrochage scolaire. Et donc le service civique, c'est un super moyen de pouvoir les remettre dans un cycle actif de vie. Et au fur et à mesure du service civique, on peut avoir des missions plus grandes, être plus autonome. Nous, c'était quelque chose qu'on voyait comme une passerelle d'accompagnement vers l'insertion.
Flash Art Colors n'avait heureusement pas lancé de recrutement pour maintenir toutes ces interventions, notamment dans les établissements scolaires. L'association va appeler ses bénévoles à la rescousse.
À la suite de l'adoption du budget de l'État français ce jeudi, la situation devrait se rétablir pour ces missions de service civique. C'est tout pour cette semaine. Ici, Radio-Canada, Radio France Internationale, la Radio-Télévision belge et la Radio-Télévision suisse se réjouissent de vous retrouver la semaine prochaine sous la houlette d'Olivier Nederland. Merci de votre fidélité à notre rendez-vous.